2. Second obstacle à la prière. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1-2. Le péché fait obstacle à la prière? Plus d'un homme prie et n'obtient absolument aucune réponse à sa prière? Peut-être est-il tenté de penser que ce n'est pas la volonté de Dieu de répondre, peut-être pense-t-il que les temps où Dieu répondait à la prière, si tant est qu'il l'ait jamais fait, sont révolus. C'est ce que les Israélites semblent avoir pensé. Ils pensaient que la main de l'Éternel était raccourcie de sorte qu'il ne pouvait plus sauver, et qu'étant devenu dur d'oreille, il ne pouvait plus entendre. Non pas, dit Ésaïe, l'oreille de Dieu est tout aussi ouverte que jamais pour entendre, sa main tout aussi puissante pour sauver, toutefois il y a un obstacle. Cet obstacle, ce sont vos propres péchés. Vos crimes ont mis une séparation entre vous et votre Dieu et vos péchés vous ont caché sa face et l'empêchent de vous écouter. Il en est de même aujourd'hui. Si bien des hommes crient à Dieu en vain, c'est tout simplement à cause du péché qui est dans leur vie. Ce peut être quelque faute passée, qui n'a été ni confessée ni jugée, ou un péché actuel qu'on chérit, que très probablement on ne regarde même pas comme un péché, mais le péché est là, dissimulé quelque part dans le cœur ou dans la vie, empêchant Dieu d'écouter. Celui qui constate que ses prières sont inefficaces ne devrait pas conclure que la chose qu'il demande à Dieu n'est pas selon sa volonté, mais devrait se retirer, seul avec Dieu, priant comme le psalmiste: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Prouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, psaume 139, 23-24, et attendre devant lui jusqu'à ce qu'il mette le doigt sur la chose qui déplaît à sa vue. Puis il devrait confesser ce péché et le rejeter? Je me rappelle bien une époque de ma vie où je priais pour deux choses qu'il me semblait que je dusse obtenir car il y allait de l'honneur de Dieu, mais la réponse ne venait pas. Une nuit, je m'éveillais en proie à une grande souffrance physique et à une grande détresse morale. Je criais à Dieu pour ces choses, plaidant avec lui la nécessité de les obtenir immédiatement, mais aucune réponse ne vint. Je demandais à Dieu de me montrer s'il y avait quelque chose de mauvais dans ma vie. Il me vint à l'esprit quelque chose de précis qui y était déjà venu fréquemment auparavant, mais que je n'étais pas décidé à reconnaître pour un péché. Je dis à Dieu: si cela est mal, je veux l'abandonner, mais toujours aucune réponse. Au plus profond de mon cœur, bien que je ne l'eusse jamais admis, je savais que c'était mal. De guerre lasse, je m'écriais: cela est mal. J'ai péché. Je veux l'abandonner. Aussitôt je trouvais la paix, et au bout de quelques instants je dormais comme un enfant. Au matin, je m'éveillais dispos et l'argent, qui était si nécessaire à l'honneur de Dieu, arriva. Le péché est une chose effroyable, et plus effroyable encore est la manière dont il fait obstacle à la prière, la façon dont il nous coupe de toute communication avec la source de toute grâce, de toute puissance et de toute bénédiction. Quiconque veut avoir de la puissance dans la prière doit être impitoyable à l'égard de ses propres péchés. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. Aussi longtemps que nous restons attachés au péché ou que nous contestons avec Dieu, nous ne pouvons attendre de lui qu'il prenne garde à nos prières. Si quelque chose vous revient sans cesse à l'esprit dans vos moments d'étroite communion avec Dieu, c'est cela qui fait obstacle à la prière. Rejetez-le. 3. Troisième obstacle à la prière. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Diazosé 2, 14. 3. Les idoles dans le cœur contraignent Dieu à refuser d'écouter nos prières? Qu'est-ce qu'une idole? Tout être ou tout objet qui prend la place de Dieu ou qui est le suprême objet de notre affection est une idole. Dieu seul a droit à la place suprême dans nos cœurs. Tout autre objet ou toute autre personne doit lui être subordonné. Beaucoup d'hommes font de leur femme une idole. Ce n'est pas qu'un homme puisse jamais trop aimer sa femme, mais il peut lui donner une place qui ne lui revient pas, il peut la faire passer avant Dieu, et quand un homme a égard à la satisfaction de sa femme plus qu'à celle de Dieu, quand il lui donne la première place et à Dieu la seconde, sa femme est une idole, et Dieu ne peut écouter ses prières. Beaucoup de femmes font de leurs enfants des idoles. Ce n'est pas qu'on puisse trop aimer ses enfants. Plus nous chérissons Christ, plus nous chérissons nos enfants, mais nous pouvons leur donner une place qui ne leur revient pas, nous pouvons les faire passer avant Dieu et leurs intérêts avant les intérêts de Dieu. Quand nous agissons ainsi, nos enfants sont des idoles pour nous. Beaucoup d'hommes font de leur renommée ou de leurs affaires une idole. Renommée et affaires passent avant Dieu. Dieu ne peut écouter les prières de tel homme? Si nous voulons être puissants en prière, il nous faut élucider ce point capital. Dieu a-t-il absolument la première place? Est-il pour nous plus que femme, enfant, renommée, affaire, plus que notre propre vie? S'il en est autrement, la prière triomphante nous est impossible. C'est en ne répondant pas à nos prières que Dieu attire souvent notre attention sur le fait que nous avons une idole. Étant ainsi conduits à rechercher pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, nous découvrons l'idole, nous la rejetons et Dieu exauce alors nos prières. 4. Quatrième obstacle à la prière, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, 13. Il n'y a peut-être pas de plus grand obstacle à la prière que l'avarice, le manque de libéralité à l'égard des pauvres et à l'égard de l'œuvre de Dieu. C'est celui qui donne généreusement aux autres qui recevra abondamment de Dieu. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, 38, l'homme généreux est puissant en prière. La prière de l'avare est sans puissance. L'une des plus merveilleuses affirmations concernant la prière triomphante, celle de 1 Jean 3, 22, déjà citée, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, est faite en relation directe avec la générosité à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Il nous est dit dans le contexte que c'est quand nous aimons, non pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, quand nous ouvrons nos entrailles à notre frère dans le besoin, qu'alors et alors seulement nous avons de l'assurance devant Dieu dans la prière. Beaucoup d'hommes ou de femmes qui recherchent la cause secrète de leur impuissance dans la prière n'ont pas à chercher bien loin, ce n'est ni plus ni moins que l'avarice pure. George Müller, que nous avons déjà cité, était un puissant homme de prière parce qu'il donnait généreusement. Ce qu'il recevait de Dieu ne s'attachait pas à ses doigts, il le passait immédiatement à d'autres. Il recevait constamment parce qu'il donnait constamment. Quand on pense à l'égoïsme de l'Église professante d'aujourd'hui, quand on pense que les églises bien-pensantes de ce pays n'atteignent pas la moyenne d'un dollar par membre et par an pour les missions étrangères, il n'est pas étonnant que l'Église ait si peu de puissance dans la prière. Si nous voulons obtenir de Dieu, nous devons donner aux autres. La plus merveilleuse promesse de la Bible concernant la façon dont Dieu peut subvenir à nos besoins est peut-être celle-ci « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 19. Cette glorieuse promesse fut faite à l'Église de Philippe en relation étroite avec sa générosité. 5. Cinquième obstacle à la prière est, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25. L'esprit de rancune est l'un des plus fréquents obstacles à la prière. La prière ne peut être exaucée que si nos péchés ont été préalablement pardonnés, mais Dieu ne peut agir avec nous sur cette base si nous montrons du mauvais vouloir envers ceux qui nous ont fait du tort. Quiconque nourrit de la rancune à l'égard d'autrui ferme hermétiquement l'oreille de Dieu à ses propres demandes. Combien cria Dieu pour la conversion d'un mari, d'enfants, d'amis et se demandent pourquoi leur prière n'est pas exaucée, alors que tout le secret réside en quelque rancune contre une personne qui leur a fait du tort, ou même qu'ils s'imaginent leur en avoir fait. Beaucoup de parents laissent leurs enfants tomber dans la perdition éternelle pour la misérable satisfaction de haïr quelqu'un. 6. Sixième obstacle à la prière, Marie, montrez votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, c'est ici il nous a dit clairement que de mauvais rapports entre mari et femme sont un obstacle à la prière. Dans bien des cas, la prière d'un mari est entravée par ce qu'il manque à son devoir vis-à-vis de sa femme et il est indubitable également que la prière de plus d'une épouse est entravée par ses manquements vis-à-vis de son mari. Si mari et femme cherchaient soigneusement la cause de l'inexaucement de leur prière, ils la trouveraient souvent dans leur relation réciproque. Tel homme qui affecte une grande piété et qui déploie une grande activité dans l'œuvre de Christ traite sa femme avec bien peu de considération et est souvent désobligeant si ce n'est brutal, il s'étonne après cela de ce que ses prières ne soient point exaucées. Le verset que nous venons de citer explique le mystère apparent. D'autre part, telle femme très dévouée à l'Église et très fidèle à fréquenter toutes les réunions, traite son mari avec la plus impardonnable négligence, se montre contrariante et acariâtre à son égard, le blesse par ses vivacités de langage et par son caractère indomptable, et elle s'étonne après cela de ce que ses prières n'aient aucune puissance. Il y a d'autres choses dans les relations entre mari et femme dont il ne peut être publiquement question mais qui, sans aucun doute, sont souvent un obstacle pour s'approcher de Dieu dans la prière. Sous le saint nom du mariage peut se dissimuler une somme de péchés qui est une cause de mort spirituelle et d'impuissance dans la prière. Que toute homme ou femme dont les prières paraissent ne recevoir aucune réponse étale devant Dieu toute sa vie conjugale et lui demande de mettre le doigt sur tout ce qui, en elle, déplaît à sa vue. 7. Septième obstacle à la prière. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? Jacques 1, 5-7. Les prières sont entravées par l'incrédulité. Dieu exige que nous croyions sa parole d'une façon absolue, la mettre en doute, c'est le faire menteur. C'est pourtant ce que font beaucoup d'entre nous tout en invoquant ses promesses, quoi d'étonnant à ce que nos prières ne soient pas exaucées? Combien de prières sont entravées par notre misérable incrédulité? Nous allons à Dieu, nous lui demandons une chose qu'il a positivement promise dans sa parole, et nous ne nous attendons qu'à moitié à l'obtenir. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? Comment prier? X qu'en prier? Si nous voulons recevoir la plénitude de bénédiction que comporte une vie de prière, il importe que nous prions non seulement comme il convient mais aussi quand il convient. L'exemple de Christ lui-même est riche en suggestions quant au moment qui convient à la prière. 1. Nous lisons dans Marc 1,5, 7h35 vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus choisit les premières heures matinales pour prier. Beaucoup d'entre les plus puissants hommes de Dieu ont suivi en cela l'exemple du Seigneur. Au matin, l'esprit est frais et dans les conditions les plus favorables. Il est affranchi de toute distraction et c'est aux premières heures matinales qu'on peut le plus aisément réaliser l'absolue concentration sur Dieu de toute notre pensée, si essentielle pour donner à la prière son maximum d'efficacité. Plus encore, quand les heures matinales sont passées à prier, toute la journée on est sanctifié et l'on reçoit la puissance pour vaincre les tentations et accomplir les devoirs qu'elle comportera. On peut accomplir davantage en priant dans les premières heures du jour qu'à tout autre moment. Tout enfant de Dieu qui veut tirer de sa vie le meilleur parti pour Christ doit mettre à part la première partie de la journée pour rencontrer Dieu dans l'étude de sa parole et dans la prière. La première chose que nous devions faire chaque jour est de nous retirer seuls avec Dieu pour regarder en face les devoirs, les tentations et le travail de la journée et recevoir de Dieu la force nécessaire à tout cela. Nous devons obtenir la victoire avant que vienne l'heure de l'épreuve, de la tentation ou du service. C'est dans le lieu secret de la prière qu'il nous faut livrer nos batailles et remporter nos victoires. 2. Le 6 chapitre de Luc, verset 12, nous apporte une lumière de plus quant au moment où il convient de prier. Nous lisons « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Luc 6, 12. Ici, nous voyons Jésus prier la nuit, passer la nuit entière en prière. Nous n'avons naturellement aucune raison de supposer que ce fut une habitude régulière de notre Seigneur. Nous ne savons même pas si cela se produisait fréquemment, mais il est certain qu'il consacrait parfois la nuit entière à prier. Ici aussi, il est bon de suivre les traces du Maître. Il y a évidemment une manière de mettre à part des nuits pour la prière qui, étant du pur légalisme, ne peut être d'aucun profit. Mais l'abus que l'on peut faire de cette pratique n'est pas une raison suffisante pour que nous la négligions entièrement. Ne disons donc pas « je vais passer toute la nuit » en prière avec la pensée qu'il s'attache à cet exercice quelque mérite qui nous assurera la faveur de Dieu, voilà qui serait du légalisme, mais nous ferons bien de dire quelquefois « je vais mettre à part cette soirée pour rencontrer Dieu et obtenir sa bénédiction et sa puissance, et si c'est nécessaire, s'il m'y conduit, je passerai la nuit entière à prier ». Bien souvent, nous aurons prié jusqu'au bout et obtenu les choses désirées après Yotting Trug bien avant que la nuit soit écoulée et nous pourrons nous retirer et trouver un sommeil bien plus réparateur et vivifiant que si nous n'avions pas passé ce temps en prière. D'autres fois, sans doute, Dieu nous gardera en communion avec lui jusqu'au matin et quand il le fait, dans sa grâce infinie, ce sont vraiment des heures bénies que ces heures de prière nocturne. Les nuits de prière avec Dieu sont suivies de journées de puissance parmi les hommes. Pendant les heures de la nuit, le monde est assoupi et silencieux, et il nous est facile d'être seuls avec Dieu et de n'être pas troublés dans notre communion avec lui. Si nous réservons toute la nuit pour prier, il n'y aura point de hâte, nos propres cœurs auront le temps de s'apaiser devant Dieu, nous aurons le temps de soumettre tout notre esprit à la direction du Saint-Esprit, et nous aurons largement le temps de prier pour toutes choses jusqu'au bout près Ting Trug. Une nuit de prière doit être placée entièrement sous le contrôle de Dieu. Nous ne devons poser aucune règle concernant la durée, ni l'objet de nos prières, mais nous devons être prêts à nous attendre à Dieu pour prier peu ou beaucoup de temps, selon qu'il nous conduira et à nous laisser mener dans telle direction ou telle autre selon qu'il le jugera approprié. 3. Jésus-Christ pria avant tous les grands événements de sa vie terrestre. Il pria avant de choisir les 12 apôtres, avant de prononcer le sermon sur la montagne, avant de partir pour une tournée d'évangélisation, avant d'être baptisé du Saint-Esprit et d'entrer dans son ministère public, avant d'annoncer aux 12 sa mort prochaine, avant le grand achèvement de sa vie sur la croix. Luc 6, 12,13, Luc 9, 18,21-22, Luc 3, 21-22, Marc 1, 35-38, Luc 22, 39-46, il se préparait à chaque circonstance importante de sa vie terrestre par un temps de prière prolongée. C'est ainsi que nous devons aussi faire. Chaque fois que nous voyons approcher un moment critique dans notre vie, nous devons le préparer par un temps de prière tout à fait spécial devant Dieu. Et nous devons, pour cette prière, prendre largement notre temps. 4. Christ pria non seulement avant les grands événements et les grandes victoires de sa vie, mais il pria aussi après les grandes œuvres et les crises importantes. Quand il eut nourri les 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons et que la multitude désira l'enlever pour le faire roi, les ayant renvoyés, il se retira à l'écart sur la montagne pour prier et passa des heures seul en prière devant Dieu. Matthieu 14, 23, Jean 6, 15, c'est ainsi qu'il allait de victoire en victoire. Il est plus fréquent pour beaucoup d'entre nous de prier avant les grands événements de la vie qu'après. Cependant, ceci est aussi important que cela. Si nous prions après les grands succès de la vie, nous pourrions aller de l'avant vers de plus grands encore, tandis que nous sommes souvent soit enorgueillis, soit épuisés des choses que nous avons faites au nom du Seigneur, et ainsi nous n'allons pas plus loin. Combien d'hommes qui, en réponse à la prière, ont été revêtus de puissance et ont ainsi réalisé de grandes œuvres au nom du Seigneur et qui, après leur accomplissement, au lieu de se retirer seuls avec Dieu et de s'humilier devant lui, de lui donner gloire pour tout ce qui avait été accompli, se sont félicités eux-mêmes, se sont enflés d'orgueil et ont dû être rejetés par Dieu. Les grandes œuvres accomplies n'avaient pas été suivies d'humiliation du moins et de prière à Dieu, de sorte que l'orgueil a pénétré dans le cœur et que l'homme puissant a été dépouillé de sa force. 5. Jésus-Christ priait particulièrement quand sa vie était exceptionnellement active. Il se retirait alors loin des foules qui se pressaient autour de lui et gagnait le désert pour prier. Nous lisons par exemple en Luc 5, 15-16, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Quelques hommes sont si occupés qu'ils ne trouvent pas le temps de prier. Manifestement, plus la vie de Christ était active et plus il priait. Quelquefois, il n'avait pas le temps de manger, Marc 3,5, 20. D'autres fois, il n'avait pas le temps de prendre le repos, ni le sommeil nécessaire, Marc 6, 31,33, 46. Mais toujours, il prenait le temps de prier, et plus il était pressé par le travail, plus il priait.